fas tard si creus que les persones no tenen remei. He vist a gent obrar miracles i jo no crec en Déu.
Bonjour et bienvenue dans cette troisième édition de l'émission Chateaubriand en Tongue, où nous allons, comme de coutume, parler de livres en espérant que ça vous donnera quelques envies de lecture.
Bonjour, bienvenue dans Chateaubriand en Tongue.
Merci.
Même si j'ai pas de tongue, mais bon, je vais quand même essayer de parler de livres.
Merci de nous accueillir, Monsieur Edmond, dans cette aimable demeure. Vous avez trouvé des petites choses intéressantes.
Mais bien sûr, je continue de lire, et puis c'est ce qu'il faut faire hein, dans le monde qui nous entoure. Quel autre refuge que la lecture?
Oui, donc un auteur américain, Percival Everett, qui est rien moins que prix Pulitzer, disait dans une célèbre émission littéraire que l'acte le plus subversif qu'on pouvait faire en ce moment, c'était de lire, et que le deuxième acte le plus subversif, c'était pas écrire, mais c'était faire partie d'un club de lecture. Et bien, considérons que Chateaubriand est un club de lecture.
Pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour adhérer alors à Chateaubriand en Tongue? Il faut payer? Il y a une grosse redevance?
Évidemment, c'est extrêmement élitiste sur le plan économique. On vous dira ça en fin d'émission?
Allez, d'accord, en fin
suspense.
D'émission. Mais c'est ouvert à tous, évidemment.
Évidemment.
Alors, le mois dernier, je vous parlais de Blast Music Pop, comment un verre solitaire changeait le monde, de V.A. Kaiser, l'allemande V.A. Kaiser, enfin l'autrichienne. Et donc, ça se passait dans les montagnes, dans un petit village de montagne qu'elle avait plus ou moins inventé. Et donc, on va rester dans les montagnes avec un roman, mais alors tout à fait différent, qui est classé en fantasy, je ne sais pas pourquoi, qui a été créé en 1939 et qui finalement paraît en 1952, puisque c'est un roman inachevé. Mais oui, cher ami lecteur, ça ne m'arrivera pas souvent parce que je trouve ça, comme vous, très très frustrant de lire des romans inachevés. Surtout que là, il est vraiment inachevé, hein, on s'arrête en plein milieu de l'histoire. Mais il a quelque chose, il a quelque chose. Ça s'appelle Le Mont Analogue. Et c'est écrit par le génial René Daumal. On en dira deux, trois mots sur cet auteur qui, malheureusement, a cassé sa pipe assez vite. Alors, analogue, ça vient du grec, évidemment. Le discours, le logos, hein, tout le monde connaît. Et puis, Anna, qui s'élèverait de bas en haut. Alors, ce roman, il part, en fait, c'est une troupe de chercheurs. Et ça commence un peu comme un roman de Gaston Leroux, Madame Henriette, voyez. C'est-à-dire que c'est tout à fait banal, on a l'impression que ça va être un roman ordinaire, et puis doucement, ça glisse dans le surnaturel, hein, comme Gaston Leroux aimait bien faire. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est des gens qui... Alors, l'auteur du livre, il parle à la première personne, avait écrit un article dans la Revue des Fossiles. Alors, rien à voir avec le maquillage, Madame Henriette, hein, mais les fossiles, voilà, les dinosaures, tout ça. Et il a eu s'est amusé à écrire un article sur le mont Analogue, cette montagne qui serait le lien entre la Terre et le ciel. Et en plus, il se présentait comme un alpiniste chevronné. Alors, il faut savoir que cette histoire de montagne qui rejoindrait, où il y aurait Dieu, tout ça au sommet, évidemment, on va le retrouver dans plein de mythes. Puisque, par exemple, Moïse rencontre Dieu pour la première fois au sommet d'une montagne, le mont Sinaï, évidemment. Le Méru est vénéré par les hindous, les bouddhistes, voilà. L'Olympe, pour les Grecs anciens. Le mont Kaf, chez les musulmans, qui est une montagne inconnue, aussi invisible. Patrie des djinns, pareil, qui fait le lien entre le monde visible et invisible. Donc le mec écrit cet article pour revenir donc sur cette montagne spirituelle, un peu tout ça. Et un gars lui écrit et lui dit, mais il faut qu'on le trouve. Il faut qu'on trouve le mont analogue, il doit sûrement exister. Et donc, Le gars se lance dans l'aventure, il monte une équipe. Et ça ressemble d'ailleurs ça un peu comme dans les séries télé, vous savez, Madame Henriette, où vous avez tout d'un coup l'écran qui se divise en plusieurs parties. Et puis, il fait son recrutement à droite, à gauche, l'intello, la bimbo, etc. Donc, il monte son équipe et ils vont partir à la recherche de ce mont analogue. Allez, je vous lis un tout petit extrait qui précise ce qu'est ce mont analogue. La première question qui peut paraître la plus difficile à résoudre, comment ? Il existerait sur notre Terre une montagne plus haute que les plus hauts sommets de l'Himalaya et l'on ne s'en serait pas encore aperçu ? Pourtant, nous savons a priori, en vertu des lois de l'analogie, qu'elle doit exister. Pour expliquer qu'on ne l'ait pas encore remarqué, plusieurs hypothèses se présentent. Tout d'abord, elle pourrait se trouver sur le continent austral, encore assez mal connu. Mais en prenant la carte des points déjà atteints de ce continent et en déterminant par une simple construction géométrique l'espace que le regard humain a pu embrasser à partir de ces points, on voit qu'une hauteur de plus de 8000 mètres n'aurait pu passer inaperçue. Pas plus dans cette région qu'en aucune autre région de la planète. Ta-da-da-da ! Donc évidemment, ils partent et ils vont trouver ce mont analogue. Alors je vous en dis pas plus, c'est un roman donc inachevé. Et bon, ben, ils se terminent malheureusement quand ils sont au pied de la montagne. Ils ont enfin trouvé où aller. Ça s'appelle. Ils sont partis à bord d'un bateau qui s'appelle l'Impossible. Et ils séjournent dans Port des Singes. Voilà, au pied de cette montagne. Et ils sont prêts à commencer l'ascension quand le roman, malheureusement, s'achève. Puisque l'auteur, notre ami René Daumal, qui était né, je le dis parce que j'adore le nom, à Boulzicourt, dans les Ardennes, en 1908. D'un père instituteur socialiste, s'est intéressé très tôt à la littérature, sans doute un peu trop enthousiaste sur Rimbaud et sur Jarry et leur idée d'explorer le dérèglement des sens, si vous voyez ce que je veux dire, Madame Henriette. Donc lui, il a fait ça pas qu'avec la poésie, hein, il a essayé plusieurs produits. Bon. Et donc, mais par contre, très tôt, il monte par exemple un groupe qui s'appelle les Frères Simplistes, PH. R-E-R-E-S. Et puis, voilà, il se lance dans tout un tas d'aventures. Comme visiblement, il avait quand même le cerveau bien fait, il étudie le sanskrit et devient un remarquable traducteur de textes indiens. Et puis, il traduisait aussi l'anglais, puisqu'il a traduit Ernest Hemingway et même apparemment des textes japonais. Donc, bon, je pense que quand même, ça tournait assez bien dans sa tête. Alors, par contre, il écrit des textes, mais ça ne marche pas du tout. Il a une vie très précaire, des conditions de vie très précaires. Il obtient le prix Doucet pour son roman Le Contre-Ciel. Et puis, pendant la guerre, il est atteint de tuberculose. Alors, on lui préconise évidemment un petit séjour à la montagne. Il va à la montagne, il commence d'écrire le mot analogue. Et puis, il meurt à 36 ans, en 44.
Une vie bien remplie. Merci, Monsieur Edmond, pour ces mots tout à fait réconfortants.
En tout cas, bon voilà, ceux qui n'ont pas peur d'affronter un roman inachevé et de rester sur leur fin, je vous conseille quand même de lire les quelques pages qui nous restent du mont analogue, qui sont un ovni quand même dans la littérature et que moi je ne classerai pas en fantasy. En autre chose, je ne sais pas en quoi d'ailleurs, en roman métaphysico, psychologico, scientifico, je ne sais pas. Un ovni.
Que vous aviez trouvé en librairie, je suppose. C'est un tout petit livre, ça ressemble au livre.
Alors non, j'en avais entendu parler, je ne sais plus où, parce qu'en fait, il est régulièrement réédité, parce que les fans de montagne et de trucs un peu ésotériques adorent ces premières pages, et c'est vrai qu'elles sont très bien écrites. Et...
Alors, je veux pas être déplaisante, mais la montagne et l'ésotérisme n'ont rien à voir.
Mais si, je pense que les gens qui essayent de s'élever, à un moment, ils cherchent sans doute quelque chose, un accès au ciel ou je sais pas, ou à regarder le monde d'en haut. Je sais pas, il faudrait demander ça aux alpinistes, pourquoi ils montent aussi haut, aussi loin, dans des conditions parfois aussi difficiles. Que cherchent-ils, si ce n'est à s'élever, Madame Henriette ?
Écoutez, c'est une forme de transcendance, peut-être ?
Donc vous voyez, on est bien dans la philosophie et tout ça. Allez, à vous, qu'est-ce que vous nous avez trouvé comme bouquin ?
Alors, on va commencer par... si je veux faire mes deux romans de soldats, il faut que je commence maintenant. Oui, alors, c'est tout à fait étonnant. Deux romans qui parlent de soldats et qui ont été écrits à des époques différentes et qui, finalement, se rejoignent plus ou moins. Le premier, c'est un méga classique. Hein. C'est Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Je n'avais pas lu ce roman. Alors, je regrette pas. Je l'ai lu dans son édition originale en français, c'est-à-dire l'édition de Robert Laffont, traduit de l'italien par Michel Arnaud. Et donc, c'est paru en France en 1949, mais c'est un livre qui était paru en Italie en 1945. Voilà. Alors, Le désert des Tartares, c'est un tour de force, en fait, puisque ce livre parle de l'ennui et de la vacuité. Et on s'ennuie pas en le lisant. Bon, c'est extrêmement bien écrit. Alors, ça raconte l'histoire. L'histoire, elle tient en quelques mots. De Giovanni Drogo, qui est un jeune officier, tout juste diplômé de l'école d'officiers. L'histoire commence au moment où il est dans la maison familiale avec sa mère et il se prépare à rejoindre sa première affectation. Sa première affectation, elle est au Fort Bastiani et il est extrêmement déçu par cette première affectation, donc, puisque voilà, on le suit donc dans sa lente progression vers ce fort qui est dans une région absolument désertique, à la frontière, dans un pays tout à fait indéterminé, à la frontière avec un autre pays indéterminé, et donc face à ce qu'ils appellent le désert des Tartares. Alors ce fort est très ancien, il ne s'y passe rien, puisqu'en fait, il est donc sur une montagne, là encore, vous voyez, on parle de montagne.
Face à un désert, donc.
Face à un désert dont il ne viendra probablement jamais personne. Et donc,
c'est pas comme dans Dune, il n'y a pas un gros ver qui pourra arriver et tout manger.
Non, on n'est pas vraiment dans la science-fiction. Et donc, ces soldats, eh bien, tout leur quotidien, toute leur vie, toute leur carrière est autour de la surveillance de ce désert, d'où il ne vient à peu près jamais rien. Alors, il y a quelques fausses alertes. Et donc, l'histoire de ce roman, c'est le temps qui passe inexorablement. C'est pas à ne rien faire, puisqu'en fait, ils espèrent tout ce qu'il va se passer quelque chose. Et ils sont particulièrement scrupuleux dans l'exécution de leur devoir de soldat ou d'officier, parce que ils se tiennent tous prêts au cas où le pays serait attaqué via ce fameux désert. Donc, non, ils ne font pas rien. Et ils sont tendus pendant toute leur vie ou leur carrière ou quelques années, puisque certains n'y restent pas longtemps. Donc, pour ce but qui n'arrive pas. Donc, c'est vraiment un tour de force littéraire parce que c'est extrêmement bien écrit. Et tout comme les personnages de ce livre, à commencer par le personnage principal, ben nous aussi, on est tendus dans une espèce de suspense, d'attente. Que va-t-il se passer ? Va-t-il se passer quelque chose ? Je vous dévoile pas la fin et je vous invite. Évidemment...
Moi, ce que je peux vous en dire de la fin, c'est que Madame Henriette était très triste. Donc elle doit pas être rigolote la fin. Ou déprimée, je sais pas ce qu'il faut dire, déprimante.
Le livre en lui-même. Donc je vous invite évidemment à le lire si vous ne l'avez déjà fait. C'est pas étonnant que ça soit devenu un classique, hein, parce que c'est vraiment très impressionnant comme livre. Effectivement, le roman, il n'est pas drôle du tout. Parce qu'en fait, évidemment, c'est un roman existentiel. Ça parle de l'existence. Et Dino Buzzati avait indiqué que ça lui avait été inspiré par quelques années de journalisme où il s'était ennuyé à périr parce qu'il n'avait absolument rien à raconter et il se demandait s'il allait faire toute sa carrière de journaliste comme ça. Voilà. Donc, sur l'absurdité, sur la vacuité, sur le temps qui passe, sur... Voilà, c'est pas très réjouissant, mais c'est très chouette à lire.
Très bien. Alors, je ne dirai rien sur le balcon en forêt, qui a l'air d'être un peu le même thème, mais où j'ai jamais trouvé ça intéressant à lire. Mais bon, écoutez, chacun ses marottes.
Eh bien,
donc, j'essaierai de lire Le désert des Tartares.
Essayez Le désert des Tartares.
Alors, un autre militaire, vous avez dit que vous y êtes deux soldats.
Ah, vous poursuivez pas ?
Okay. Ben non, mais enchaînez les soldats.
Allez,
puisque vous vouliez nous parler.
Enchaînons les soldats. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette phrase ?
Ben moi, j'aimerais bien qu'ils soient tous enchaînés. On aurait la paix comme ça.
Le deuxième, donc, c'est une histoire assez étonnante, ce livre. C'est Le Hussard. C'est un roman d'Arturo Pérez Reverte, le très célèbre auteur des aventures du capitaine Alatriste, donc romancier espagnol, qui auparavant était reporter de guerre. Et ce roman, en fait, c'est le premier d'Arturo Pérez Reverte, et à l'époque où il était encore reporter de guerre. De toute façon, toute l'œuvre d'Arturo Pérez Reverte parle d'absurdité, de barbarie et de guerre. Et d'art, étonnamment. Et donc, ce livre, donc, il l'a écrit en 83 et au terme d'une très longue bataille juridique avec l'éditeur, il a pu récupérer les droits pour le rééditer, puisqu'en fait, il n'était pas du tout content de son éditeur. Et donc, ce roman a été réédité donc, en 2004. Il a été réédité par Pérez Reverte. Et en français, eh bien, il a été édité aux éditions du Seuil. C'est dans cette édition-là que je l'ai lu et traduit par François Maspero. Alors, pour le coup, on n'est pas dans un pays imaginaire et à une époque imaginaire, puisqu'on est en Andalousie en 1808 et on est en pleine campagne napoléonienne d'Espagne. Oui,
ça s'annonce fun, effectivement, madame.
Ça
Henriette.
S'appelle Le Hussard, je vous rappelle. Mm-hmm. Voilà, c'est l'histoire de Frédéric Glünz, qui est un officier, lui aussi, un jeune officier, lui aussi, qui a été formé et qui arrive sur son premier véritable terrain de bataille. Donc ce jeune officier, ben, il rêve de gloire, il est complètement enivré par la beauté du mythe napoléonien, par les uniformes, les magnifiques chevaux. En fait, il est dans cette espèce de délire, disons-le, qui était assez courant à l'époque, hein. Et donc, il est stationné déjà au moment où le roman commence, au sud de l'Espagne, où ils ont à affronter, ça se passe pas très bien d'ailleurs pour les troupes napoléoniennes, où ils ont à affronter une espèce d'armée espagnole complètement désorganisée, qui n'a aucun uniforme correct, enfin c'est fait de briques et de brocs, c'est entre la guerre classique et la guérilla, puisqu'en fait... Les civils sont mêlés à tout ça. Donc au fil du roman, on découvre les exactions épouvantables sur la population civile. Hein. Ça nous renvoie au tableau de Goya, dont ne parle pas d'ailleurs, il me semble, Pérez Reverte, ce qui est fort étonnant, puisque en général, quand il parle de guerre, il parle aussi ceux qui ont peint ces guerres.
Mais c'est un roman d'aventure, c'est quoi ?
D'aventure ? Non, c'est un roman de guerre.
De guerre.
Ben, oui.
C'est le seul truc qu'on voit, c'est la guerre. C'est,
oui,
c'est pas
c'est
des
ça.
Héros, quoi. C'est pas des héros.
Eux, ils se prennent pour des héros. Et donc, le jeune Frédéric Glünz va rapidement. Après, il était fort impatient d'en découdre. Et puis, rapidement, il va en découdre. Et découvrir donc ce qu'est effectivement la vraie guerre, bien crade.
Il faut recoudre.
Alors oui, c'est amusant. Et donc, avait face à comme je vous le disais, une armée dépenaillée, mais très très convaincue. C'est tout à fait intéressant parce que Pérez Reverte, l'espagnol, s'est mis dans la tête de l'officier français, du jeune officier français. On sait que cette invasion des troupes napoléoniennes en Espagne a été un véritable traumatisme. Donc, pour les Espagnols, ça a été quelque chose d'assez épouvantable. Et donc, c'est vraiment intéressant comme point de vue. Là aussi, je ne vous raconte pas la fin, Mais là aussi, là non plus, on n'est pas dans quelque chose qui fait se sentir bien et qui permet d'envisager le monde avec optimisme et des lunettes roses. Voilà. Mais je vous invite vivement à lire ce bouquin. Vous retrouverez d'ailleurs, c'est le premier roman de Pérez Reverte, mais vous retrouverez toutes les obsessions de ce romancier.
Très bien, Madame Ariotte. C'est vrai qu'il a publié un paquet de bouquins, dont son dernier. Peut-être qu'on aura l'occasion de le chroniquer, parce que moi, ça m'intéresse quand même le sujet, là, ces gars qui s'asseyaient sur des torpilles pour aller...
Eh bien, j'ai pas réussi à le lire, parce que justement... alors, ça parle évidemment de
pour
guerre.
Pour aller saboter
ça parle,
des bateaux pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ça parle évidemment de l'absurdité de la guerre, et ça parle évidemment de barbarie. Mais pour le coup, j'y ai pas retrouvé l'ambiance...
Il y a une histoire d'amour. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour dans votre hussard?
Non, il a pas le temps. Il y a beaucoup d'histoires de haine et de mépris et de mépris effectivement puisque les Français méprisent absolument les Français révolutionnaires, hein, ce sont les héritiers de la Révolution, méprisent grandement ces Espagnols qui sont des obscurantistes complètement attardés quoi.
Allez, dans je
pour du moins.
Dans Chateaubriand en Tongue, je voulais vous parler pour une fois d'une BD. On n'en a pas encore parlé, je crois, depuis le début de l'émission. Et oui, je sais, Madame Ariotte s'est lancée dans le manga, donc elle va vous en parler pendant des heures. Maintenant, elle est convertie, sans doute. Non, là, je vous parle d'une BD tout à fait classique, hein, qui se tient en deux volumes et qui est dessinée par Sylvain Vallée. Et j'adore Sylvain Vallée, j'adore son dessin, très dynamique. Et là, il a décidé de faire un petit diptyque assez rigolo, scénarisé par Jackie Schwartzman. Alors, ça s'appelle Abemus Bastard. Évidemment,
ça commence bien.
Oui, tout le monde voit la référence. Le deuxième tome, c'est Un cœur sous une soutane, puisqu'en fait, Lucien, tueur à gages qu'on avait dans le premier tome, est obligé de se mettre au vert. Et donc, il devient curé dans un petit village qui s'appelle Saint-Claude. Il n'est absolument pas croyant, il n'a absolument aucune idée de ce qui peut se passer pendant une messe. Donc, il est en improvisation totale tout au long de la bande dessinée. Les paroissiens sont parfois un peu étonnés de ses sermons, hein, mais bon, voilà, ils tiennent le choc. Et évidemment, à ses trousses, eh bien, il y a les gendarmes, les gitans, les gangsters et parfois les paroissiens. Donc, vous l'avez compris, ce sont des personnages hauts en couleur. On peut dire que le scénario, c'est un hommage au film d'Audiard. C'est, voilà, dialogue très relevé. Moi, j'ai trouvé le scénario un peu trop classique, mais bon, c'est quand même très rigolo, ça se lit très bien, ça détend. Il y a beaucoup de pistolets, de pistolades et tout ça, mais ça reste bon enfant. Voilà, c'est vraiment pour rigoler.
Oui, alors,
Sylvain Vallée a fait des BD qui sont quand même moins rigolotes sur des sujets plus politiques où il y a vraiment de la torture et tout ça. Non, là, c'est vraiment pour rigoler. Même s'il peut y avoir des morts, hein, ça peut arriver. Hein, c'est le milieu du grand banditisme. Bon, mais c'est quand même sympathique. Voilà, oui, Madame Ariotte.
Ça change de l'ambiance des pistolets précédents
voilà.
dont je vous parlais.
Voilà pour Abemus Bastard.
Alors, je me souviens plus...
Et c'est chez Dargaud, pardon. Voilà. C'est chez Dargaud, édité par Dargaud.
Je me demandais si vous aviez cité l'éditeur.
C'est pas lui qui fait le plus gros travail.
Je vous parle de BD aussi ?
Allez, parlez-nous de BD, Madame Ariel.
Alors, tout à fait incroyable, je vous parle de manga. Hirayasumi, c'est un manga de Keigo Shinzo, donc, et en français, c'est aux éditions Le Lézard Noir, car, eh oui, c'est très décevant, je l'ai lu en français.
Bon, vous n'êtes pas mis au japonais juste pour lire du manga ?
Toujours pas. Donc, c'est un manga qui est en 9 tomes à ce jour, hein, puisque le dernier tome vient juste de paraître en France. Au Japon, il est publié depuis 2021 dans le magazine Weekly Big Comic Spirits. Et il va faire... Donc, c'est un manga qui a eu un énorme succès. Et il va faire l'objet d'une adaptation. Il est en train de faire l'objet d'une adaptation en anime et en drama. Voilà, qu'est-ce que ça va donner ? Je l'ignore. Hiraya Sumi.
Drama, donc... c'est la série télé, c'est ça ?
Oui, série télé, tout à fait. Hiraya Sumi, donc c'est l'histoire de Hiroto, qui a 29 ans, et de sa cousine Natsumi, 18 ans. Alors, Hiroto, c'est, il vit à Tokyo, c'est ce qu'on appelle un fritter, c'est-à-dire que c'est il vit de petits boulots, de boulots à temps partiel, et notamment son boulot principal, c'est, et le seul boulot qu'il a quand il n'a pas trop besoin d'argent, c'est, il travaille dans une pêcherie, vous savez, ça c'est très, très étonnant, on le voit également dans les dramas coréens, ces espèces de trous creusés dans le sol, dans lesquels on met de l'eau, et puis on met des poissons, et il y a des gens autour qui pêchent, voilà. Donc ça existe, a priori, également au Japon.
Oui, parce que ça existe en France, hein.
Ah bon ?
Ben, vous avez des endroits où vous allez à un lac, vous payez un truc, et vous pêchez, et vous repartez avec votre pêche, hein.
Eh bien, je l'ignorais, figurez-vous, j'apprends plein de choses avec vous. Donc, Hiroto, il est volontiers désinvolte, vous l'avez compris, et il n'a strictement aucun plan de carrière. Je vous rappelle qu'on se situe au Japon. Alors, il profite d'un quotidien bien tranquille dans la petite maison qui lui a été léguée par une vieille dame, Madame Anae, avec laquelle il s'était lié d'amitié. Il est donc le manga explique également voilà l'histoire avec Madame Anae donc quelques mois et quelques années auparavant.
Donc il y a des flashbacks, c'est ça que vous voulez dire,
Madame Anae ? Exactement. Donc Hiroto est rejoint dans cette maison par sa jeune cousine Natsumi qui s'installe à Tokyo pour suivre des études en arts plastiques et qui rêve de devenir mangaka. Évidemment, c'est un rêve qui n'est pas facile à atteindre. Et donc le lecteur suit leur quotidien et celui de, leur, de leurs amis, donc les amis de Hiroto, les amis de Natsumi, dans une société japonaise qui leur est parfois favorable, relativement bienveillante et puis parfois assez hostile, où chacun tente d'être le moins malheureux possible, hein, puisque c'est très mignon, mais en fait, ça notamment au niveau du travail, ça dépeint quand même un quotidien au travail particulièrement oppressant pour ceux qui s'investissent dans leur travail, ce qui n'est pas le cas de Hiroto. Alors, Hiraya Sumi, ça appartient, j'ai appris des choses en préparant cette chronique, ça appartient au sous-genre, alors je vais essayer de le prononcer correctement, Iyashikei. Et donc ce sous-genre, ce sont des mangas au rythme très lent qui dépeignent des vies paisibles et qui sont censés être apaisants, voire thérapeutiques. Pour moi, donc, c'était mon premier manga.
Ça vous a thérapeuté ou pas ?
Monsieur Edmond me regarde fixement, c'est tout à fait déconcertant. Pour moi, c'était mon premier manga. C'est le premier manga dont j'ai fini le premier tome, c'est juste extraordinaire. Et j'en suis au tome 7, c'est vous dire si ça m'a plu. Incroyable.
Il y en a 60 comme dans tous les mangas ?
Non, je vous ai dit pour l'instant il y en a 9, mais peut-être un jour il y en aura 60. Donc je referai un petit point régulièrement dans Chateaubriand en tongue. Voilà. Donc, on passe un moment très agréable. Hein. Le but est atteint, puisque je vous ai dit, c'est des mangas qui visent à être apaisants. Donc, on passe un moment très agréable avec les personnages de Hiraya Sumi. C'est charmant. Alors, l'intérêt, c'est que c'est charmant sans sombrer dans l'inanité ou la vacuité, hein, puisqu'en fait, ça vous amène nécessairement à réfléchir à vos propres choix de vie et à ce qu'est... une vie accomplie, en fait. Et donc, évidemment, je vais profiter de ce micro pour remercier vivement la bibliothécaire qui m'a placé littéralement le premier tome entre les mains. Parce que sans elle, je n'aurais pas sauté le pas. Et ça aurait été dommage. Donc, Hiraya Sumi, Keigo Shinzo, je vous le conseille vivement.
Ah bah oui, si vous en êtes au tome 7, et ça ne s'essouffle pas. On est toujours content de retrouver... ces personnages. Et c'est quoi ? C'est du manga choral, en fait ? On a plein de personnages et...
On n'a pas tant de personnages que ça, quand même. On a une toute petite dizaine de personnages, pas davantage. Et en fait, ce qui est très agréable, c'est qu'ils sont, ils sont très mignons. Ils ont des petits malheurs, des doutes, des découragements. Et puis des fois, ils sont contents, ça marche bien. Voilà, c'est des petites joies aussi. Et en fait, on a juste envie de vivre avec eux. Donc chaque fois qu'on ouvre le tome, on se dit « Ah, je retourne avec Hiroto et Natsumi dans la petite maison de Madame Anae, qui est une petite maison traditionnelle à Tokyo. » Voilà, c'est ces maisons japonaises de plein pied là, que l'on connaît. Voilà. Donc non, c'est super agréable, c'est réconfortant. En fait. Voilà.
Donc vous l'avez bien compris, même si vous n'avez jamais lu de manga, même si vous êtes très vieux, si vous n'y voyez plus, c'est possible de se mettre au manga. Et donc, Madame Ariette vous conseille donc...
Hirayasumi.
C'est bizarre comme titre comme manga, quand même, c'est pas facile à passer quoi, hein, pour
alors,
faire la publicité
priori,
et tout.
Alors, a priori, c'est la contraction justement de maison, et après, je me souviens plus. C'est amusant! Vraiment, comme vous êtes drôle.
Bon, par contre, c'est bien du manga, c'est édité comme du manga, donc il faut lire à l'ordre inverse du français. Hein. On part de l'arrière et on remonte, hein, c'est ça ?
On lit, voilà, comme...
Non, mais certains mangas sont édités en France, sont édités dans la version
française. Non,
française.
Là, c'est édité dans l'ordre originel. Et
on lit de droite à gauche. Et...
Oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Très
et
bien.
Donc, un connaisseur de manga qui se désespérait de ne jamais m'en voir lire, quand je lui ai montré celui-là en lui disant « Ah, ben tu sais, celui-là, il me plaît », il m'a répondu « Évidemment, c'est du dessin Ghibli ». Donc voilà, si vous aimez le dessin Ghibli, a priori...
Le dessin Ghibli, c'est... Parce que vous dites ça, le dessin Ghibli, comme si tout le monde était spécialiste du dessin Ghibli.
Ce sont les
Miyazaki, c'est ça ?
Mais non, Ghibli, ce n'est pas que Miyazaki. Ça suffit maintenant.
Ouais, bon, donc, enfin, c'est lui quand même, la figure
type,
de proue.
Oui, mais c'est un type de dessin, effectivement, très joli, très... assez... enfin, voilà, qui est un dessin particulier. Voilà.
Oui, tout doux.
C'est ça, c'est
par
tout
rapport
doux.
À certains mangas où ça peut être beaucoup plus violent, effectivement.
C'est tout doux, mais ça n'est pas creux. Et ça,
oh là,
c'est
beau ce que vous dites. Allez, on reste au Japon puisque il nous reste quelques minutes et je vais vous parler des chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Alors là, c'est pareil, elle en est au 4e tome, je crois. Et donc, le premier tome s'appelle Le Masque de Nau. C'est chez Gallimard Jeunesse. Bon, c'est autant pour adultes que pour jeunes, je pense. Alors pour faire jeune justement, ils ont fait que les tranches du livre côté des pages sont colorées, ça dessine des formes. Alors effectivement, c'est très beau.
J'ai appris le nom il y a quelques jours et je l'ai déjà oublié.
C'est super.
C'est un nom.
D'accord, c'est un nom de faire ça.
Oui.
Et du coup, je dois avouer qu'en plus la couverture est très noire et tout ça, et le dessin stylisé un peu étrangement. Et quand on a cet ouvrage dans les mains, effectivement, on se dit ah mince, c'est un bouquin de fantasy. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit « Non, mais moi je l'ai reposé, parce que j'aime pas la fantaisie, je vais pas lire de la fantaisie. » Eh bien, laissez-moi vous dire que pas du tout. Ce n'est absolument pas un roman de fantaisie, c'est un roman d'aventure dans le Japon médiéval. L'autrice s'est très documentée sur l'univers des samouraïs, qui est assez bien rendu. Et donc, on suit un enfant qui est abandonné dans un temple, perdu au milieu d'une forêt, évidemment, on est au Japon, Ichiro, et il est récupéré et élevé par un vieux samouraï, voilà, qui avait décidé de s'éloigner du monde, des combats, de la fureur et tout ça. Et je vous en dis pas plus.
Ah
en
oui,
tout
d'accord,
cas,
c'est vraiment...
Mais oui, c'est comme ça.
Vous nous laissez sur notre faim, là.
Mais non, vous allez voir. Alors, il faut passer quand même la première partie, parce que moi, je l'ai trouvée intéressante, mais c'est vrai que plusieurs lecteurs m'ont dit que c'était un peu lent quand même, ça mettait du temps à démarrer. C'est normal, puisque l'enfant, il est élevé par un samouraï qui vit perdu au milieu d'une forêt, complètement reclus. Il y a juste une bonne avec eux. Donc, bon, bah, il ne se passe pas mille trucs, quoi. Hein. C'est pas encore le roman d'aventure. Mais par contre, dès qu'il arrive en ville, dès qu'Ichiro rejoint la ville, là, ça part. Et notamment, il va se retrouver impliqué dans une troupe de théâtre. D'où évidemment le titre du livre « Le masque de Nau ». Puisque comme chacun sait, c'est l'un des types de théâtre qu'on trouve au Japon. Alors, je viens de finir le deuxième tome, donc ça se lit vraiment très facilement. Le deuxième tome est encore plus envoyé. Et voilà, ça se passe bien, donc je vais peut-être lire la suite. On va voir, on va voir. Je vais vous lire un tout petit extrait pour vous donner un peu l'ambiance. Et puis peut-être que je ferai comme Madame Henriette. Alors, si je lis les autres tomes, je vous en dirai des nouvelles dans Chateaubriand en tongs. Hein? On ne sait pas. Ne regardez pas comme ça. À l'aube du deuxième jour, comme nous quittions l'auberge miséreuse où nous avions passé la nuit, Chine avait insisté pour s'arrêter devant une rangée de statues de petits bonzes aux yeux fermés. Des Jizo, je ne sais pas comment on dit, protecteurs des voyageurs. Mais prenant la fatigue pour prétexte, j'avais refusé de mettre pied à terre et détourner le regard. Je n'avais aucune intention de prier qui que ce soit. La route du Tokaido dessinait une marque de craie à peine discernable entre les talus et les rizières enneigées. À l'époque où je l'avais sillonné pour la première fois, l'animation était grande. Mais en cette fin de douzième lune, rares étaient les voyageurs à s'y aventurer. Les gens craignaient l'hiver, les brigands et la guerre. Seules quelques silhouettes de paysans ramassant du bois, les pentes bien dessinées de la toiture des petites chaumières et de temps à autre, solitaires dans le champ gelé, l'ombre sinueuse d'un pin centenaire, se détachaient sur le fond gris de l'horizon. Malgré mes réticences, j'avais enfin tourné la tête vers les statues de Gisot. Ces derniers fermaient les yeux sur les malheurs de ce monde, non par peur ou par indifférence, mais par sagesse. Je les avais imités avant d'écouter les branches des arbres frémir au-dessus de nos têtes et de sentir le ciel s'ouvrir autour de moi. Voilà, c'est quand même très japonais, non? Un peu dans l'esprit, je trouve. Voilà, ça avance doucement et il y a quand même des aventures. C'est vraiment un roman d'aventure. Donc, Camille Monceau, Les Chroniques de l'érable et du cerisier. Pour l'instant, il y a 4 tomes de paru, donc chez Gallimard Jeunesse. Et dans Chateaubriand en tongs, maintenant, Madame Henriette, il est temps de donner toutes les informations, je pense.
Et oui, on
Parce que
vous a
vous nous avez dit
Mais
que
oui, on vous
on
a
pouvait
tenu en
adhérer au
haleine.
club.
C'est nous sommes des professionnels du teasing. Bon,
Il
non,
faudrait trouver
en fait,
un mot,
non.
il n'y a pas un autre mot que teasing, parce que les
Mais
Canadiens, ils ont peut-être un autre
il
mot
faut
quand
aller
même.
regarder du côté du
Voilà, de nos
Québec.
amis du
C'est
Québec.
absolument certain qu'il y a un autre mot absolument poétique et charmant, comme ils en sont coutumiers. Nous allons donc faire une petite pause musicale. Non, d'abord, je vous dis, pardon, que vous pouvez participer à l'émission Chateaubriand en tongs, car le seul critère pour participer à cette émission, c'est d'en avoir envie. Voilà.
Et d'avoir envie de parler de livres. Hein.
Évidemment, d'avoir envie
Ah
de,
oui,
si
non,
vous
mais
avez
quand
envie de
même.
partager votre enthousiasme pour un livre, eh bien, c'est possible.
Voyez, même un manga, c'est possible.
Il suffit pour cela de nous contacter, par exemple, par le biais de la page Facebook Chateaubriand Tongue. Chateaubriand, comme l'auteur, et en Tongue avec Tongue au pluriel. Et vous pouvez également, si vous n'êtes pas trop loin de Guéret, venir enregistrer votre chronique directement à la bibliothèque de Guéret. Des séquences d'enregistrement sont prévues. On vous dira tout ça si vous nous contactez. Sinon, on trouvera toujours un moyen pour que vous puissiez enregistrer et diffuser votre chronique dans cette émission qui vous est donc
Je
ouverte.
suis pas sûr que vous ayez donné l'adresse email en entier. Hein. Chateaubriand en tongs.
Ah non, j'avais parlé de la page
Ah
Facebook.
d'accord, la page
Il y
Facebook,
a
pardon.
également une adresse mail et vous avez raison, comme toujours.
Oh, merci, madame.
Chateaubriandtongue, donc, @proton.me. C'est l'adresse de cette émission. Nous allons donc faire une courte pause musicale, disais-je, avec un groupe lyonnais qui s'appelle Spore. Alors, je ne sais pas si on prononce Spore ou Sport, hein. Le titre, ça sera Reggie Lewis. Nous écouterons ensuite les 4 excellentes chroniques d'Ariane, d'Alain, d'Emmanuel et de Jeanne Delicor. Ces 4 chroniques ont été enregistrées dans les locaux de la médiathèque de Guéret, médiathèque qui est partenaire de cette émission, et on les en remercie. Et nous terminerons avec un autre moment musical, c'est un groupe croate qui s'appelle Dead Dog Summer et le titre de ce soir, de cet après-midi, pardon, ce sera Bridges.
Bonjour, je m'appelle Ariane, je vais vous parler de DJ Bambi, Dodo Rava Olafsdottir, qui est paru aux éditions Zulma en 2023 et pour la traduction française en 2025. Ça a été traduit par Éric Bourri. Dans ce livre, on entend la voix de Logne, qui livre au jour le jour ses réflexions, ses souvenirs, son quotidien, en attendant l'opération qui va lui permettre d'avoir un corps qui lui ressemble. Dernière étape pour transitionner vers un corps de femme, elle qui est née et a vécu homme pendant de nombreuses années. Entre les visites quotidiennes de son frère jumeau, ses rencontres avec le voisinage de l'immeuble, la relation qui se noue avec une ancienne camarade d'école devenue écrivaine, Logne retrace de sa naissance jusqu'à ce jour le long parcours semé de doutes, d'injonctions, de ruptures familiales et amoureuses, de désirs et d'espoirs qui pourraient l'amener enfin à être, comme elle le dit, une banale femme de 61 ans. Très jolie découverte, lue d'une traite, d'abord pour l'écriture, que je trouve hyper poétique et très douce, mais aussi pour l'histoire. On dit généralement qu'on lit d'une traite un récit captivant, prenant plein de rebondissements. Ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est le quotidien de Logne, à la limite de la banalité qui nous embarque. On est avec elle, tout près d'elle, et la poésie de son regard est partout. Le ton est neutre, même lorsqu'elle évoque des souvenirs douloureux. Finalement, le récit se déroule sur un rythme à l'image du prénom qu'elle s'est choisi, Logne, et qui désigne en islandais le calme plat, l'absence totale de vent. Pas de colère ici, pas d'orage, juste le déroulé d'une vie passée à se conformer aux attentes et à la possibilité, enfin, peut-être, d'accéder à soi-même. Mine de rien, l'autrice aborde avec subtilité au travers de son personnage l'identité de genre, la question des représentations culturelles qui nous désignent comme hommes ou femmes dans nos sociétés et leurs conséquences sur nos vies. Entre les lignes, on grappille un peu de la culture islandaise et un regard singulier sur les bouleversements écologiques dont nous refusons de mesurer l'ampleur et auxquels nous tentons maladroitement de nous adapter. Au travers de petites choses du quotidien, Odur Rava Olafsdottir insuffle une réflexion intelligente et sensible sur des thématiques on ne peut plus actuelles. Et ça fait du bien. Belle journée à tous et à toutes et bonne lecture.
Bonjour, donc je m'appelle Alain, je suis un lecteur comme d'autres, peut-être un peu plus gourmand que certains. Pour autant, j'essaye de diversifier mes lectures et là j'ai eu l'agréable surprise de me voir offrir un livre qui m'a beaucoup plu et qui est vraiment qui mérite la lecture, on va dire. Alors, il s'agit d'un livre qui est écrit par Médissa D'Acosta. Ce livre s'appelle « Tout le bleu du ciel ». Il a été édité en 2020 et l'autrice a reçu le prix des lecteurs du livre de poche en 2020 ainsi que le prix des lecteurs en 2020 également. Donc, ce livre est un roman qui concerne deux personnages principaux, un jeune homme qui n'a pas 30 ans et une jeune femme qui a à peu près du même âge. Ce jeune homme se voit découvrir par la médecine une pathologie d'Alzheimer très précoce et bien sûr passer le rebond qu'il faut pour prendre la décision compatible avec ce type de pathologie, il décide, lui, carrément, de ne pas s'occuper des protocoles médicaux et surtout de ne pas rester en contact avec tout son entourage, qu'il soit familial, amical, etc. Donc, il va essayer, pour se faire plaisir et peut-être aussi pour... C'est une forme peut-être de conjuration par rapport à cette maladie qui en l'état actuel des recherches est dite incurable, et compte tenu de son âge, il a décidé de passer le reste du temps en faisant ce qui lui plaît, c'est-à-dire un voyage. Mais comme il craint quand même de le faire seul, qui ne s'est pas en habitué, il passe une annonce sur Internet en demandant si quelqu'un voudrait bien se joindre à son périple précisant bien évidemment qu'il y a cette pathologie, mais qu'il va en profiter en essayant de découvrir des paysages qu'il ne connaît pas. Donc, contre toute attente, une jeune femme lui répond, et donc il décide, après avoir investi dans un petit van, de se retrouver. Cette jeune, donc il se découvre, cette jeune femme lui apparaît surprenante par rapport à une norme actuelle. Elle est très mutique et ils ont au départ quelques difficultés à échanger, non pas d'un point de vue, je dirais, d'hostilité ou de quoi que ce soit, simplement de se comprendre, de se parler, parce que cette personne est mutique, mais elle est très, très, très réceptive. Et le type de voyage auquel elle a répondu, elle a souscrit, semble lui convenir, bien qu'elle n'en parle peu. Donc ils vont se promener pendant, commencer leur périple, dans un endroit qui, en plus, si ce livre m'a plu, mais particulièrement cher, à savoir les Pyrénées, et donc ils vont commencer à aller se promener, et petit à petit, à se connaître. À se connaître en sortant des sentiers battus, parce que lui, il souhaite avant tout se promener dans ces paysages montagneux qui sont merveilleux, et elle également, et petit à petit, ils vont se découvrir et entamer une relation qui est assez particulière compte tenu de son état, mais qui va vraiment s'affirmer et devenir plus profonde que ce que l'on croit. Alors, ce roman n'est pas du tout pathétique, il est surprenant, déroutant, il est à la fois triste et à la fois il est plein d'espoir. Et je dirais que la fin est un étonnement, une surprise, et qu'il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là. Et je pense qu'il mérite amplement d'être lu. C'est une tranche de vie particulière, une façon d'aborder également des maladies et une façon de découvrir ou de sortir pour ce qui concerne la jeune femme, qui finit par évidemment préciser l'origine de son mutisme et de son trouble. En fait, elle a vécu un drame très, très proche, familial, et ils arrivent à se découvrir, et voilà. Donc, je vous invite à le lire, et surtout, aller jusqu'au bout, parce que le dénouement est plein d'espoir, je dirais.
Bonjour, alors je m'appelle Emmanuelle et le livre que j'ai choisi de vous présenter ici s'appelle « Demain, c'est nous » aux éditions Faubourg et il est publié en mars 2023. Alors ce livre m'a littéralement happée par son ton presque familier, il est en effet très facile à lire et on se sent immédiatement proche des deux auteurs, François Bernard qui est un enseignant et Heidi Sévestre qui est glaciologue. Alors, je vais vous donner un petit peu le pitch. Au moment du Covid, donc c'est un enseignant en technologie, donc François Bernard, enseignant, j'ai pas précisé, dans un collège de La Rochelle, qui en fait se questionne sur le sens de son métier. Et soudain, il a le déclic. Il décide de tout faire pour mieux comprendre les enjeux climatiques et surtout pour le partager avec la jeune génération. Il décide alors de contacter la glaciologue Heidi Sévestre, qui elle aussi s'embourbe un peu dans sa vie monotone de chercheuse et qui voudrait être plus sur le terrain. Qu'à cela ne tienne, leur projet est complètement fou. Il s'agit d'emmener une classe de 3e au Svalbard, c'est-à-dire en Arctique, afin de les sensibiliser au réchauffement climatique. François l'enseignant le présente devant la direction de son collège, qui à sa grande surprise le valide, pour autant qu'il en trouve le financement. Donc pendant un an, François et Heidi donnent des cours sur le changement climatique à une dizaine d'élèves qu'ils ont triés sur le volet, selon leur motivation à participer à cet incroyable voyage qui va les marquer à vie. Ce qui m'a vraiment plu, c'est aussi que l'expérience de ce projet « Demain, c'est nous » n'en est pas restée non plus à ce stade et les élèves ont eu l'excellente idée de fonder une association et un site internet « demaincestnous.com » que je vous invite fortement à visiter pour compléter la belle aventure de ce livre. Qui sait, un jour ce sera peut-être vos enfants qui s'inspireront de cette folle aventure humaine permettant de mieux comprendre Dame Nature et les enjeux climatiques. En conclusion, je dois vous avouer que le livre m'a littéralement chamboulée. J'ai donc pris quelques décisions pour alléger mon empreinte carbone et agir à mon niveau pour que la fonte des glaces recule. Voici donc mes résolutions. Offrir ce livre à mes proches, manger moins de viande, faire plus de covoiturage, acheter des aliments le plus possible en vrac et enfin geler mes achats de vêtements pendant un an au minimum. J'ai employé le terme « gelé » puisqu'il me rappelle sans cesse que la banquise fondra moins vite si nous prenons tous des engagements plus éco-responsables. Enfin, que vous soyez des parents ou des grands-parents, de collégiens ou de lycéens, vous serez certainement vivement intéressés de savoir qu'à l'échelle nationale, de plus en plus d'écoles offrent maintenant cette option sur le changement climatique pour le bac. Enfin, une dernière chose, mais pas des moindres, sachez que pendant 3 mois, à partir du 13 décembre, une exposition sur les pôles se tiendra à la bibliothèque de Guéret.
Bonjour, donc je m'appelle Jeanne Delicor, mon nom de plume. Je vais vous présenter un livre qui m'a été offert par une amie. Donc c'est un roman de Claudie Gallet, une écrivaine française contemporaine, qui s'appelle donc Les Déferlantes. Donc ce livre a été publié par les éditions du Rouergue, Collection La Brune, une édition de 2008. Et donc Les Déferlantes a obtenu de nombreux prix littéraires. Alors nous sommes en Normandie, tout au bout du Cotentin, près de la Manche, de nos jours. Et l'histoire se déroule quasiment exclusivement dans le petit port de La Hague. Les déferlantes, ce sont ces vagues qui se brisent en rouleaux, accompagnées d'écume. Donc la narratrice, elle est arrivée là depuis quelques mois, après un drame personnel, comme pour se couper de son passé, comme pour s'anesthésier. Elle est employée par le centre ornithologique de Caen, et elle observe donc les oiseaux migrateurs, elle les décompte le long des falaises. Elle marche. Elle observe, et pas que les oiseaux. Elle est logée à la Griffue, une maison au bord de mer, presque dans la mer, au premier étage. Le rez-de-chaussée est occupé par Raphaël, un sculpteur, et par sa sœur Morgane. Les gens ont fini par appeler la narratrice comme sa maison, la Griffue, ou parfois la Orsin, l'étrangère. Donc à quelques pas, un bar tenu par Lily, la mère de Lily, la mère, qui sera nommée comme ça tout le long du livre, est au fond, assise avec son sac à main serré contre elle. Elle attend le père. Le père de Lily, c'est Théo, qui avant, c'est lui qui observait les oiseaux pendant des années. Théo habite un peu plus loin, le long d'un sentier, tout seul. Et puis il y a aussi la cigogne, une petite fille de la ferme d'à côté, à laquelle la narratrice s'est attachée. Et puis encore un autre personnage, Max, amoureux des mots, maladroit, un peu simplet, employé des petits travaux par les habitants pour subvenir à ses besoins. Encore un autre, Monsieur Anselme, toujours en costume, qui veut raconter encore et encore ses rencontres avec Prévert, montrer ses photos. Et enfin Nan, une vieille femme habillée en robe noire, cheveux longs et blancs, et rentre sur les plages les lendemains de tempête cherchant les siens. Et l'histoire commence justement un jour de grande tempête. Lambert est arrivé, un homme mystérieux, blouson de cuir, mal rasé, un peu magnétique. Il ne ressemble pas à un touriste. Au lendemain de la tempête, les habitants sont tous regroupés sur la plage. Nan passe de l'un à l'autre, scrute les visages, s'arrête devant Lambert, le touche et lui dit « Michel, tu es revenu ?» Quelques jours plus tard, Lambert entre et ouvre la maison inhabitée en face du bar de Lily. Par petites touches, comme une impressionniste, la narratrice nous emmène au fil des jours et de ses émotions à comprendre, connaître les ressorts et les secrets des uns et des autres, et surtout ceux de Lambert. Donc ce qui m'a plu dans ce livre, c'est d'abord l'écriture. Des phrases courtes, de la place pour le lecteur, une émotion à fleur de peau, une ambiance, tous les sens sont convoqués. L'ouïe, la vue, l'odeur, je suis au bord de cette mer en furie, je sens les embruns, l'iode, je vois la lande, j'entends le cri des oiseaux. Je vois aussi ces hommes et ces femmes, habitués à la rudesse de la mer, taiseux, bourrus, vrais. J'ai le sentiment de suivre une crête en permanence, comme celle de la falaise, entre le processus de deuil de la narratrice, les événements, les relations complexes ou très simples entre les personnages. Et puis ce qui m'a plu aussi, c'est l'histoire. Une espèce d'enquête sans en être vraiment une. cette femme qui raconte, qui se relève, qui s'intéresse à nouveau aux autres et qui leur permet aussi de se relever à leur tour. Une histoire de résilience racontée avec poésie au rythme du ressac.